Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, le premier passage que j'aimerais donc lire avec vous, c'est une référence qui va nous suivre dans le reste de cette méditation. C'est dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, et simplement deux versets, et nous y apporterons un commentaire ensuite. Sur un sujet qui peut nous préoccuper les uns et les autres, qui quelquefois, en effet, est un souci dans notre vie, la crainte de manquer. Peut-on dire ça comme ça? Je pense que les uns et les autres, nous avons tous à un moment ou un autre, peut-être eu cette appréhension, peur de manquer. C'est vrai. Manquer d'argent, peut-être. Manquer de force. Manquer de travail, ce qui revient naturellement à peut-être une crainte économique, la crainte de pas avoir suffisamment de santé, ça peut être aussi toutes sortes de choses comme ça qui peuvent. Et la Bible répond à cette préoccupation, parce que Jésus nous en parle par exemple dans le Sermon sur la montagne, quand il touche la question des inquiétudes, alors la crainte, les inquiétudes, et il parlera des choses très terre à terre. C'est-à-dire, il dira, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous pourrez subsister à travers la nourriture qui est tellement nécessaire, qui est indispensable à la vie, naturellement, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ou encore de quoi serez-vous vêtu. C'est une préoccupation de tous les temps. Et on est quand même dans une société où il y a quand même pas mal de choses, d'abondance, mais on s'aperçoit que cette crainte, elle est latente à travers toutes les générations, tous les siècles, où les gens ont peur, ou la crainte, finalement, de manquer. Et le sujet, je voudrais le cadrer à travers une réponse que Dieu a donnée, et on va la lire tout de suite. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 5, il est dit ceci. Alors voilà, livre des Hébreux, c'est à la fin de notre Bible, chapitre 13, verset 5. Il est dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Et c'est intéressant, c'est la suite. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est Dieu qui dit ça. Et c'est vrai que c'est mis en comparaison avec le souci permanent des hommes qui croient, qui pensent, et peut-être dans une certaine mesure à raison, c'est-à-dire que l'argent répond à tout. On se dit, puisqu'on a les moyens, on a des capacités financières, économiques, je sais que s'il m'arrive quelque chose, si j'ai telle ou telle difficulté, telle détresse, je peux y répondre parce que finalement, j'ai ce qu'il faut. C'est pour ça que les deux sont mis ensemble. Ne vous livrez pas tout simplement à l'amour de l'argent, parce que l'argent répond, c'est vrai, à beaucoup de choses, mais il ne répond pas à tout. Et ça, c'est vrai qu'il y a des limites. Il y a des gens qui sont extrêmement fortunés dans le monde, et ils voudraient bien acheter des choses qu'ils ne pourront jamais acheter avec de l'argent. La paix, le bonheur, la tranquillité peut-être, le repos, la guérison. Il y a des choses qui ne se monnaient pas. Et c'est pour ça qu'il est mis qu'il est donné cette petite phrase, en quelque sorte, en contraste. Dieu dit, l'argent ne dit rien, l'argent sert. Mais Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et vous savez que Dieu a répondu d'une manière tout à fait particulière, si c'est peut-être une des préoccupations que vous avez actuellement, peur de manquer. Il y a une belle histoire dans la Bible. C'est l'histoire des Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte, de leur esclavage, de leurs 430 ans. Un peuple soumis, écrasé, on peut dire maltraité. Et quand ils se sont retrouvés dans le désert, c'était vraiment très terrible la vie en Égypte, parce qu'ils étaient considérés comme des bêtes de somme, c'était pas des hommes, on les considérait comme rien du tout, de la main-d'œuvre, c'était des esclaves. Et quand ils se sont retrouvés finalement libérés, Dieu les envoyait au désert. Et vous savez que le désert, il n'y a rien dans le désert. C'est curieux, hein, quand même. Hein. Après avoir vécu la misère hein, dans bien des domaines, des peines et des chagrins et des labeurs qui n'en finissaient pas, Dieu va leur conduire, bien qu'il leur ait dit « je vous conduis quand même dans le pays de Canaan ». Mais cette histoire devait passer par le désert. Ils sont restés 40 ans dans le désert, qui est l'image du nombre de l'épreuve. Hein. Et dans un désert, il n'y a pas grand-chose. Hein. À perte de vue, vous regardez à droite, à gauche, devant vous, derrière vous, c'est que du sable, des dunes. Quand tout ça, ça ne se déchaîne pas, parce qu'il y a des tempêtes, il y a toutes sortes de choses, ce qui augmente finalement eh bien, les craintes et les peurs. Alors, Dieu a répondu justement à « je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Et il a donné à Israël, parce que dans le désert, il n'y avait pas de boulangerie, hein. Il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas d'Auchan, de Carrefour, je ne suis pas en train de faire de publicité, mais il n'y avait rien du tout. Et Dieu leur a donné quelque chose d'extraordinaire, une chose qu'ils n'avaient jamais vue, c'était la manne. Et je voudrais vous parler de la manne ce soir, parce que Dieu a pourvu à la nourriture de près de 2 millions, ou plus de 2 millions de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, pendant 40 ans. Et vous savez ce que veut dire le mot « manne » ? Une petite idée, non ? Ça veut dire « qu'est-ce que c'est ? » Qu'est-ce que cela est ? Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu, finalement, ce qui tombait du ciel, qui était une graine, en quelque sorte, et qui était, c'était quotidien. Et nous nous apercevons que quand les Israélites dans le désert ont vu ça, ben la première question qu'ils ont posée, ils ont dit « qu'est-ce que c'est ?» Et Moïse, inspiré par Dieu, leur a dit « mais ça va maintenant être votre nourriture ». On va découvrir ça au fur et à mesure de notre méditation. Et j'aimerais mettre axé notre réflexion sur quelques mots principaux qui vont nous montrer, qui vont nous enseigner ce soir à ne pas craindre à manquer en fonction de certaines conditions. La fidélité et la providence divine, l'incrédulité et les murmures, c'est-à-dire le mécontentement qui va nous priver, qui peut nous priver finalement de la bénédiction de Dieu. Et puis il y a également l'obéissance. L'obéissance est alliée à la foi. Je crois que ce que Dieu me dit, Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est Dieu qui le dit, hein, je le répète à dessein. Hein. Et il y a naturellement attaché à cette disposition de notre cœur qui est la foi, eh bien une bénédiction. Et puis il y a également, eh bien là, comme ça s'est passé dans le peuple d'Israël, pour certains, de l'ingratitude. Vous vous rendez compte ? Avoir une bénédiction tous les jours et pas s'apercevoir et ne plus reconnaître que c'est une bénédiction. De l'ingratitude. Et Dieu va répondre naturellement, eh bien, il va continuer. C'est pas parce que les hommes sont en défaillance. Ils ne veulent pas croire, ils refusent de croire, mais finalement, la manne, elle venait tous les jours, hein, quoi qu'il en soit. Alors, si vous voulez bien, on va prendre le première pensée, c'est donc la fidélité, la providence divine dans Exode. On va commencer par Exode, et il y a quelque chose d'intéressant à considérer dans cette leçon. Et par exemple, je vais prendre le texte dans Exode chapitre 16, et au verset 31 et 35. Il y a deux versets, et nous allons voir un petit peu le comportement des Israélites alors que Dieu les nourrissait, que Dieu voulait véritablement répondre à leurs besoins parce qu'il était le meilleur, parce que la manne, on va le voir ensemble, c'était une sorte de graine et qui avait la propriété d'être délicieuse, super nourrissante, hein, plus qu'on pourrait l'imaginer. On va découvrir de quoi était cette manne, ce « qu'est-ce que c'est ?». Et peut-être pour les amis qui nous rejoignent, quand ils entendent parler de l'Évangile, ils se disent « mais qu'est-ce que c'est ?». Eh bien, je voudrais simplement vous dire que la parole de Dieu, c'est une manne. C'est une parole. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va se mettre dans la bouche, sous la dent, mais c'est quelque chose qui nourrit nos cœurs et qui nous donne de croire à l'incroyable, de croire à l'impossible, de croire, et ça va nous servir de remède pour guérir nos craintes et nos inquiétudes et nos peurs. C'est ça la manne. Hein, vous en souviendrez peut-être que pour certains, c'est la première fois que vous entendez ce nom. pour ceux qui sont familiers naturellement avec l'Écriture sainte, c'est une histoire qui est très connue dans la Bible. D'ailleurs, on retrouve l'histoire de la manne dans l'Ancien Testament principalement, mais aussi dans le Nouveau Testament, on en dira deux mots tout à l'heure. Donc d'Exode, versets 31 et 35, je vais le lire avec vous. La maison d'Israël, alors donc, ils viennent de sortir d'Égypte. Hein, ils étaient malheureux, ils pleuraient, ils avaient demandé à Dieu la délivrance, et Dieu leur donne la délivrance, et voilà qu'ils sont libérés. La maison d'Israël donna à cette nourriture qui descendait du ciel, il l'appela la manne, selon ce que nous avons expliqué il y a un instant. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le coriandre, hein. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Donc, tous les aspects. Alors, elle tombait sur le sol, comme ça. C'était comme une neige, en quelque sorte, hein. Dans le camp d'Israël, c'est un camp très grand, hein. C'est comme on en voit, malheureusement, les camps de réfugiés aujourd'hui, hein. Vous avez 100 000, 200 000, mais là, ils étaient 2 millions. Et la manne tombait à cet endroit-là. Elle ne tombait pas autour, hein. C'était pas pour, sur des kilomètres et autour du camp, il n'y avait rien du tout. C'était sur le camp, suffisamment en quantité. Donc, verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Ça s'est pas passé une fois, deux fois. Ça s'est passé pendant 40 années durant qu'ils étaient dans le désert, jusqu'à leur arrivée dans le pays habité, c'est-à-dire le pays de Canaan. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Alors il y a une transition à faire. Ils étaient malheureux en Égypte. Ils sont allés dans le désert. Le désert, pour nous, on pourrait peut-être l'illustrer de cette manière. C'est en quelque sorte une école par laquelle, eh bien, on apprend à marcher par la foi, à faire confiance à Dieu sans preuve. C'est dur, ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais quand je verrai, je croirai. Ben, c'est faux. Parce que le principe biblique, spirituel, c'est finalement, Dieu nous dit, eh bien, ce n'est pas de voir, c'est de croire, et ensuite tu verras. Crois, et tu verras. Et ça, c'est une épreuve pour nous. Parce qu'on est tellement matériel, matérialiste. On aime bien toucher, on aime bien sentir, on aime bien voir, on aime bien contrôler, on fait l'analyse de ceci, on calcule, etc., etc. Ça, c'est l'esprit humain. Et ça nous rassure, parce qu'on a été fait comme ça. Mais Dieu nous dit maintenant, eh bien, si tu veux me suivre, si tu veux véritablement voir ce que je suis capable de faire pour toi, d'abord à commencer par te guérir de tes craintes et de tes peurs, et puis ensuite te donner tout le reste de ma bénédiction, eh bien maintenant, il ne faut plus que tu marches par la vue, il faut que tu marches par la foi. Il y a des gens qui diront, mais ils sont fous, les chrétiens. Non, on n'est pas fous. On fait confiance à celui qui nous dit la vérité. Et celui qui nous dit la vérité, ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur, celui que je suis. Non, la vérité, c'est Jésus-Christ. Et vous verrez que la manne, c'est Jésus. Dans tous ces aspects, on peut faire une typologie ce soir. La typologie, c'est tout simplement de rapporter soit des personnages ou des faits à ce qu'a pu être Jésus dans sa perfection. Et on s'aperçoit que la manne, eh bien, ça fait partie justement de cette signe avant-coureur qu'un jour Dieu enverrait un sauveur, le Messie, pour répondre à tous les besoins des hommes, et nous le trouvons naturellement, et nous le voyons apparaître dans l'évangile, la deuxième partie de notre Bible. Donc on a parlé que c'était une petite graine, elle tombait à un endroit précis, là où étaient les enfants d'Israël, parce que moi je voudrais vous dire que Dieu donne sa nourriture, et Dieu donne sa bénédiction à ses enfants. Et qui sont les enfants de Dieu? Ceux qui croient en lui. Dans une famille, un papa et une maman, eh bien, un petit enfant, il va pas chercher midi à 14h, c'est son papa et sa maman, et quand papa ou maman dit quelque chose, eh bien l'enfant le croit, il n'a pas à douter. On croira peut-être pas un étranger, un voisin, ou non, l'enfant connaît finalement, et si nous voulons véritablement, eh bien là, être dans cette pensée que Dieu est bon, souvent les gens disent, il est mauvais ton Dieu, il est injuste, il est méchant, regarde un peu tout ce qui se passe, non. C'est une vue qui est complètement faussée, qui est dénaturée, parce que moi je voudrais vous dire que quand on connaît, on lit la Bible, moi j'ai appris à découvrir, et c'est pas d'aujourd'hui, que Dieu est bon, que Dieu est grand, que Dieu est miséricordieux, et que croyez-moi, que quand il a envoyé Jésus, vous savez le nom de Jésus, on va bientôt le célébrer là, bientôt, hein, à Noël, vous savez ce que ça veut dire? Sauveur, Jésus sauveur, et une prophétie nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, quand l'enfant viendrait, que Jésus viendrait, apparaîtrait, hein, c'est Noël ça, hein, la nativité, Eh bien, il nous est dit que Dieu a dit, tu l'appelleras Emmanuel. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel ce soir, non? Enfin, ça, c'est un beau nom, hein. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Vous comprenez? Je veux dire le contraire. C'est pas Dieu contre nous. Et il y a une foule, il y a des millions et des millions de gens qui pensent que Dieu est contre eux, mais non. La seule chose que pour nous rallier et nous ramener, nous réconcilier avec Dieu, c'est de croire en celui que nous ne voyons pas. Par contre, lui nous voit. Et il veut nous sauver et nous faire du bien. Donc, ça, c'était une réponse à la première question que nous nous sommes posées tout à l'heure, enfin, que Dieu répond. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'argent ne répond pas à tout. Il peut satisfaire, mais il ne répond pas à tout. Surtout les besoins moraux. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Vous avez peut-être passé une semaine peut-être un petit peu plus compliquée, et en disant, mais comment je vais faire? Comment je vais faire à la fin du mois ou la fin de la semaine? Ou comment je vais m'en tirer? Comment je vais solutionner mon problème? Ça a peut-être été une idée, une pensée qui vous a tourmenté et dominante. Ben moi, je voudrais vous dire ce soir en réponse, parce que je l'ai sur le cœur, tout simplement, hein. Vous imaginez que, avant de faire une prédication, je prie. Et je dis pas, tiens, ça me fait plaisir de prêcher là-dessus. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec, enfin, pour moi, en tous les cas. Je dis, Seigneur, donne-moi une pensée ce soir qui va faire du bien à quelqu'un. Ou à quelques-uns. Donne-moi une pensée qui va, eh bien, peut-être réconforter. Je vais prendre ta parole, mais il faut que tu me conduises. Alors, vous savez qu'il y a quand même quelques pages dans la Bible. Il y en a quelques-unes, hein. Et moi, je ne sais pas. Et c'est vrai que cet après-midi, j'ai eu cette pensée, comme ça c'est venu, tout simplement en priant. J'ai pensé à la manne. Je me dis, mais ça c'est la réponse de Dieu. C'est une forme, bien sûr, présentée comme ça, hein, pour nourrir le peuple d'Israël qui avait faim. Mais si nous avons faim, si nous avons soif, moralement, même physiquement, eh bien, en tous les cas, Dieu nous envoie sa manne, il nous envoie sa bénédiction. Donc, on a dit un petit peu comment ça s'est passé. On a dit ce qu'était la manne pendant 40 ans, c'est que Dieu n'arrête jamais en cours de route. Il nous dit pas, voilà, je t'ai béni, maintenant, demain, c'est fini, hein, tu te débrouilles tout seul, hein. Tu dois en savoir assez, non? Quand Dieu prend un homme ou une femme en main, eh bien, il va l'accompagner. Je peux vous le dire, et il y en a des amis qui sont depuis très longtemps, finalement, dans cette relation avec le Seigneur, hein. C'est pas d'appartenir à une église qui est important, c'est d'appartenir à Jésus. D'ailleurs, Jésus a dit, venez à moi. Il a pas dit, venez à l'église. Venez à ceci et cela. Il a dit, venez à moi. Et le plus important, c'est ça. Et nous nous apercevons que, eh bien, plusieurs d'entre nous, nous pourrions dire, mais depuis tant d'années que nous avons découvert le Seigneur, le jour où nous avons entendu son appel dans notre cœur, mais il n'a jamais fait défaut. Il a été merveilleux, le Seigneur. Moi, je l'ai connu. Vous allez dire, je commence à vieillir et je répète. Mais il y a des gens qui l'ont déjà entendu, mais il y a peut-être des gens qui ne l'ont jamais entendu. Alors, je le dis encore. Hein, jusqu'au jour où vous ne voudrez plus l'entendre. Maintenant, vous, voilà. Mais toujours est-il que, depuis l'âge de 19 ans, moi, ça a été quelque chose, une véritable bénédiction, le Seigneur. Alors, tout n'a pas été facile, tout n'a pas été simple, mais une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur n'a jamais fait défaut. Il a toujours été là pour délivrer, pour nous donner ce que nous avions besoin. Et croyez que c'est aussi votre cas. Ça peut être votre cas, la crainte de manquer. Non. Alors, nous allons aborder le deuxième sujet, c'est l'incrédulité. La réaction devant ce que nous venons d'entendre, devant ce que nous avons lu, l'incrédulité est... Nous pourrions dire, l'incrédulité amène à des murmures. Et vous savez, le premier murmure, c'est un peu l'interrogation des Israélites, des Hébreux, quand ils ont vu cette neige, qui était de la nourriture finalement, cette petite graine de manne qui tombait, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ne la connaissaient pas. Il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas, mais que vous allez connaître maintenant. Et ça peut avoir deux réactions. C'est tellement extraordinaire et tellement formidable, je le crois. Alors, à ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre pour nous. Ou alors de dire, même si on le voit, même si on le constate, eh bien, on est incrédule, on refuse de le croire. Hein. Et à ce moment-là, on commence à murmurer en disant, bah, pff, qu'est-ce qui tombe là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas une réponse de Dieu, c'est pas un exaucement. Si vous avez prié, vous allez être exaucé. Et vous allez voir que quand on prie, et que vous croyez que vous allez être exaucé, que vous êtes exaucé, croyez que c'est Dieu qui vous l'a envoyé. C'est pas une coïncidence, c'est pas le hasard, ça n'existe pas le hasard. Quand nous sommes chrétiens, et si un jour vous prenez le chemin finalement, eh bien, pour répondre à l'appel de Dieu, d'avoir Jésus comme votre chef, comme votre roi, eh bien, vous verrez qu'il n'y a pas de hasard. C'est même pas des coïncidences, c'est parce que toutes choses sont déjà préparées à l'avance pour notre bien, notre bonheur. Et même les épreuves, il y a toujours une porte de sortie. Et on sort toujours plus grand que quand on y est rentré. Et ça, c'est formidable. Donc l'incrédulité, ce qui amène tout simplement les murmures et le mécontentement. On va prendre dans le livre des Nombres maintenant un autre passage qui illustre justement l'incrédulité. Hein, vous ne me ferez pas croire cela. Il y a des gens qui disent ça. Hein. Alors, vos histoires de Bible, vos histoires d'Évangile, vos histoires d'un Christ de ceci et cela, il y a des gens qui s'en refusent. Et c'est leur problème, c'est pas... Livre des Nombres, chapitre 11, versets 4 à 9. Et on va lire ça, c'est intéressant de voir des réactions. Il y avait en Israël, c'est moi qui le dis, hein, en prélude, hein. Il y avait en Israël donc un ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Ce monde-là fut saisi de convoitise, c'est-à-dire que ils se sont dit d'une tentation, on peut dire la convoitise c'est la tentation, on va le traduire de cette manière. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Ils avaient déjà le pain, ils voulaient le reste. Remarquez, vous allez me créer un casse-croûte, c'est ça. Hein. Mais toujours est-il qu'ils n'en avaient jamais assez, ça veut dire jamais assez. On est dans un monde où les gens n'en ont jamais assez. Et pourtant, quand je regarde les informations, je lisais ce matin les bulletins sur... Un bulletin international sur les persécutions dans le monde. Je peux vous dire, mais qu'est-ce qu'on est heureux en France, hein? Waouh! Ce soit aux Indes, que ce soit en Malaisie, que ce soit dans d'autres pays. C'était des bulletins de chrétiens persécutés. Attention, hein, parce qu'il y a des gens qui sont persécutés dans le monde de différentes manières. C'est toujours des persécutés, c'est toujours des malheureux. Et je lisais ces bulletins ce matin, je me disais, mais de quoi se plaint-on? Est-ce que vous avez pris 3 repas aujourd'hui? Oui, on les prend, en principe, hein. Hein, et on ne pense même pas que c'est normal. Mais il y a des gens qui prennent 3 repas en une semaine. Ou un par jour, quelquefois, à peine. Ah ouais, hein. C'est terrible, hein. La faim, la prison, hein, tout ce qui est violence, etc., etc., les familles qui sont séparées, enfin, il y a toutes sortes de choses, c'est terrible, hein. Et Israël, qui était pourtant le témoin de grands miracles, ils avaient vu comment Dieu les avait fait passer par la mer Rouge. Et là, on s'en souvient quand même, non? Ça, c'est quelque chose, hein? Eh bien, ils continuèrent à murmurer. Et vous savez que c'était pas tellement Israël qui murmurait. C'était les autres qui étaient là, un petit peu en périphérie, qui ont entraîné Israël, c'est le monde en quelque sorte, qui ont entraîné Israël, finalement, à murmurer comme tout le monde. C'est un peu le principe des manifestations sociales. Hein. Il y en a un qui crie, puis tout le monde crie avec sans savoir pourquoi il crie. Enfin bon, excusez-moi, je suis en train de pas faire de politique, hein, mais je ne veux pas faire de politique, en tous les cas. Non, voilà. Qui nous donnera de la viande à manger? Car nous nous souvenons que nous avions des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien. La peine, ils l'avaient oublié. Hein. Ils avaient des concombres, vous avez ça les concombres, hein? Des melons, c'est pas mal, hein? Des poireaux, des oignons. Et des os de l'ail. Et ça, c'était leur bonheur. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Je plaisante. Hein. Mais c'était un peu leur mentalité, parce que ça commençait à se dégrader. Hein? Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien, de ce que vous mangerez, etc., etc. Mais le Seigneur pourvoit. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient, eh bien... ne voit plus la lumière, nos yeux ne voient que la manne, que la manne, que la manne. Est-ce que vous êtes fatigué de la bénédiction de Dieu? Peut-être certains diront, je l'ai jamais vu. Eh bien, vous allez vous préparer à la voir, Dieu va vous bénir. Hein? Mais ceux qui l'ont vu, ceux qui ont vécu, ne dites pas que Dieu ne fait jamais rien pour vous. Parce que Dieu fait les choses. Et plus je pense d'une manière négative, eh bien Dieu moins va faire. C'est normal. Automatiquement, il fera toujours moins. Hein? Alors, on continue. La manne ressemblait à de la graine de coriandre, on l'a vu tout à l'heure, et avait l'apparence du blédium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot où on faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile, et j'ai trouvé dans une traduction de l'huile fraîche. Quelque chose qui était savoureux, qui était bon. On a vu un gâteau de miel tout à l'heure. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait en même temps. Vous vous rendez compte? Le petit déjeuner était déjà servi à 7 heures le matin. Vous aviez ça sur votre table de chevet? Hein, la rosée descendait le matin, et puis il y avait justement ce miracle renouvelé, continuel. Si nous vivons, moi je me suis posé souvent la question, si nous vivons, si nous nous réveillons le matin, si nous voyons le soleil, il n'y a pas toujours le soleil, hein, ça c'est sûr, mais c'est une grâce de Dieu de pouvoir respirer. Ouais. On ne s'en aperçoit pas, la santé, c'est quelque chose d'important. Quand on l'a, on n'y fait pas attention. Quand on ne l'a pas, ça laisse réfléchir. Hein. C'est vrai, il nous manque quelque chose. Puis il y a bien des choses comme ça dans la vie, qui font partie de notre existence. C'est tellement quotidien, c'est tellement routinier, on se dit, voilà, ça peut pas être autrement. Ben oui, mais ça peut être autrement, c'est vrai. Ça l'est, hein, ça peut l'être en tous les cas. Donc, l'incrédulité murmure le mécontentement. Vous savez ce qui tue la foi? Ce qui tue la confiance en Dieu, ce Dieu qu'on ne voit pas mais qui est pourtant présent? Eh ben, c'est justement d'avoir un esprit de mécontentement en permanence. De toujours se plaindre. Il n'y en a pas assez. Et puis, une fois que j'ai ceci, je voudrais encore cela, etc., etc. Ouais. C'est difficile, hein, de contenir les enfants, surtout au moment de Noël, hein. Là, déjà, le Père Noël, il est déjà dans les rayons. Hein. Mais, si on les laissait faire, moi, j'ai mon petit-fils actuellement pendant quelques jours, pendant quelques temps, là. C'est un malin, hein. Il ressemble pas à son grand-père. Je tiens à le dire. Mais on l'emmène, il est sur son chariot royal, vous savez, dans le caddie, là. Et puis, pam, 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 pam. Alors, bon, on est obligé de... Voilà. Enfin, il est gentil, il est mignon, hein. Je ne veux pas lui faire de mal. Mais... Alors, mais c'est pour dire que... C'est vrai qu'un enfant n'a pas la mesure des choses. Mais c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où les gens sont toujours en train de se plaindre de ne pas en avoir assez. Puis quand ils ont, ils veulent encore, et puis ceci et cela. Contentez-vous, il nous est dit, hein. On a eu tout à l'heure, il me semble, hein. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça, c'est important, le contentement. Être heureux de ce que l'on a. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie. Vous pouvez le lire? Merci, Seigneur, pour ceci et cela. On peut toujours... on n'aura pas tout, peut-être, mais il y a des choses. Sinon, on sait déjà reconnaître ce que l'on a de bien et venant du Seigneur, et le Seigneur nous donnera le reste. Moi, j'en suis convaincu. Hein. Donc, vous souviendrez que le mécontentement, les murmures, l'incrédulité, ça tue la foi. Alors, on peut peut-être déjà commencer à dire, Seigneur, donne-moi une plus grande foi. Donne-moi, délivre-moi de mes doutes. Délivre-moi de mes murmures, de mes mécontentements, lorsque je suis insatisfait, lorsque je ne suis pas positif, je suis négatif. Change mon état d'esprit. Ben, vous verrez que les choses iront beaucoup mieux après. C'est un secret qui descend du ciel, ça, en quelque sorte. Et puis, on a parlé également de l'obéissance, la foi obéissante. Je crois, donc je fais, parce que je le crois. Et je crois que c'est vrai, donc j'obéis. Hein, j'ai un peu mélangé un peu les choses. Je ne les mélange pas, je les mets dans l'ordre. Hein. Excusez-moi, plutôt. Donc, l'obéissance, qui est un gage de bénédiction, parce que je crois, parce que j'obéis à ce que je crois, parce que c'est Dieu qui me le dit, alors à ce moment-là, il va y avoir une bénédiction sur ma vie. Tout le monde veut être béni, c'est vrai. Quand on voit le monde religieux, quel qu'il soit, chrétien ou non, toutes les démarches qu'ils font pour essayer d'obtenir la bénédiction, de mériter la bénédiction, d'arracher la bénédiction au ciel. Hein. Il y a des gens qui font des sacrifices terribles. Hein. Quand on voit chez les hindous, par exemple, ou les bouddhistes, hein, même dans le monde chrétien, ce que les gens sont prêts à payer, à se mortifier, à donner leur argent, etc., pour avoir la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu, elle est gratuite. Elle se prend. C'est un cadeau. Pourquoi essayer de vouloir donner quand Dieu nous fait un cadeau? C'est terrible, hein? Quand quelqu'un vient chez vous avec un bouquet de fleurs et vous dites, voilà, ça me fait plaisir de vous offrir des fleurs. Vous dites, bah, écoutez, je vais chercher mon porte-monnaie, je vais vous le rembourser. Ça fait plaisir, ça aussi. Je peux vous dire que vous prenez les fleurs, surtout que si c'est des cactus. Enfin, vous estimerez à la vraie valeur de celui qui vous fait un bouquet, hein? L'obéissance, donc, cache de bénédiction, naturellement. Et ça, c'est apprendre à marcher par la foi. Ouais, on réussit pas du premier coup, hein, faudrait quand même vous le dire. Quelquefois, c'est comme un petit enfant qui apprend à marcher. On lâche, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, et un jour il dit « Eureka, j'ai compris, je marche !» Alors après, vous courez pendant 20 ans après. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que il y a là des principes, et dans la foi, quelquefois on tombe. Quelquefois, eh bien, on chute, on a toutes sortes de choses. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde qu'un jour nous soyons capables de marcher, finalement, fermement, solidement, en lui faisant confiance. Parce que je te l'ai dit, parce que je te l'ai promis, parce que je te fais, eh bien là, tout simplement, là, la promesse que ce que je te dis, je vais le faire pour toi. Faut le croire. Alors, faut de la patience aussi, naturellement. Alors, dans Deutéronome, on a justement l'illustration de cette parole que nous venons de voir ensemble. Donc, l'obéissance gage de bénédiction, chapitre 8, si vous voulez. Alors là, nous avons finalement la règle, en quelque sorte. Deutéronome, chapitre 8, verset 1er à 5. C'est Moïse qui parle, il parle de la parole de Dieu à Israël. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Donc il y a une relation entre la vie et l'obéissance. T'obéis, tu vis. Tu n'obéis pas, eh bien après c'est toi qui verras naturellement peut-être les conséquences, parce que c'est un chemin en quelque sorte, hein. Afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, réalisation de cette promesse. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années, alors voilà le temps, et ces 40 années dans le désert est fini, afin de t'humilier, c'est-à-dire que la privation était peut-être une école difficile, mais tu as vu que ce que tu n'as pas eu de la terre, tu l'as eu du ciel. C'est ça la question, quelle école? Voilà. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements, les dispositions de notre cœur. Il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a toutes sortes de choses dans la vie. Il y a deux manières de réagir. Il y a la manière qui est celle de la révolte, de dire « c'est pas possible, moi je veux pas vivre ça, c'est pas possible, c'est pas possible que Dieu soit Dieu parce que je vis, je traverse telle et telle situation ». Ou alors, il y a une disposition de douceur, non pas de béni oui-oui, hein, c'est-à-dire hop, on s'écrase et on se résigne, c'est pas ça. Hein. Mais de dire « Seigneur, moi je crois que derrière les moments difficiles, derrière les épreuves et les difficultés qui sont les miennes, il y a certainement une porte de sortie. Tu as quelque chose à me dire, tu as quelque chose à m'apprendre, c'est ce que le texte veut dire, hein, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Il y a eu des Israélites, des Hébreux, qui sont sortis de l'épreuve du désert très fort. Et la plupart, malheureusement, sont sortis très faibles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus la foi, et ils disent « mais Dieu, c'est toute une illusion, ça c'est une histoire des hommes, c'est nous qui nous sommes mis ça dans la tête », et c'est faux. Il y en a beaucoup, il y a des millions et des millions de gens qui pensent ça. Hein. Par contre, il y en a d'autres qui disent « mais non, moi je pense que derrière une épreuve, il y a quelque chose, il y a un sens et une signification. » Et si vous passez quelques épreuves, ben moi je voudrais vous dire ce soir que c'est pas gratuit. Et je veux dire par là qu'il y a un but et un sens, et que vous en sortirez plus fort, et que vous en sortirez certainement sauvés même. Ah oui, ça c'est, il n'y a pas de doute à avoir. Dieu t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et c'est là où nous retrouvons finalement ce que nous avons lu. Il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. C'est pour ça que le mot manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Il n'avait jamais vu ça. Et vous savez le miracle de Dieu? Eh bien c'est peut-être qu'on ne l'avait jamais vu dans notre vie, et que peut-être même ceux qui nous ont précédés ne l'ont jamais vu non plus. Et on découvre quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est une vie nouvelle. Eh oui, on ne pouvait pas s'imaginer que c'est pas la vie religieuse qui nous sauve, hein, c'est la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la manne qui descend du ciel, une vie nouvelle qui nous transforme, qui nous change, et ça c'est quelque chose. Vous savez, la manne, c'est en quelque sorte eh bien, l'image emblématique de la provision. On pourrait dire ça comme ça, bienveillante de Dieu. Ce Dieu qui a le pouvoir, finalement, qui a la capacité de pourvoir à tous nos besoins. C'est lui qui nous a créés. Il sait qu'on a besoin de vêtements. Il sait qu'on a besoin de nourriture. Il sait que nous avons besoin, sur le plan moral, d'affection, d'amour et toutes sortes de choses. Nous avons besoin d'amis, nous avons besoin d'une famille, nous avons besoin de toutes sortes de choses. Donc, la manne, c'est une image emblématique, quelque part, de cette provision que met à notre disposition, une provision bienveillante. Parce que Dieu, eh bien, fait les choses dans sa bienveillance. Alors, dans ce texte, c'est le chapitre 8 et 1, 5, je ne vous l'ai pas lu encore, hein, non? Non, je ne vous l'ai pas lu? Je vous l'ai lu? Ah bon, je viens de le lire. Bon. Parce que Deutéronome, chapitre 8. Ah ben oui, chapitre 8, naturellement. Vous avez raison, je vous l'ai lu. Afin de t'apprendre... Je suis un peu fatigué ce soir, excusez-moi. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Alors reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Non, te bénit. Il t'apprend. Il t'instruit comme un homme instruit son enfant. J'ai changé un peu les mots parce que le mot de la traduction second est un peu rude. Châtier. Non, c'est pas comme ça. C'est parce que Dieu nous instruit à travers les épreuves et les difficultés. Et vous avez remarqué, Dieu dit tout simplement, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous connaissez ce texte dans la bouche de Jésus? Sermon sur la montagne? Et ce soir, vous êtes venu? Vous avez peut-être sacrifié un match de football? Ou, je ne sais pas, Thalassa, c'est fini maintenant, hein, depuis quelques temps. Hein. Enfin, il y a des émissions à la télévision en disant, tiens. Et vous avez fait la préférence de venir écouter le message de l'Évangile. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que vous avez eu raison. Non pas parce que ça me fait plaisir de vous voir, c'est vrai que ça me fait plaisir de vous voir. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous avez donné la priorité à quelque chose peut-être qui correspond à un besoin dans votre cœur, que ce n'est pas de se nourrir uniquement de la parole des hommes, des choses matérielles et humaines, mais de se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est ce que vous êtes venu faire. Et ça, c'est important parce que je pense que vous construisez votre foi, vous construisez votre vie spirituelle, vous êtes en train de la découvrir, ou de découvrir une nouvelle dimension. Et ça, c'est quelque chose. Reconnais dans ton cœur que Dieu te bénit parce que, voilà, il y a ceci et cela. Et puis une dernière chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais terminer, c'est la notion du pain d'effort. La manne était un ingrédient miraculeux qui descendait du ciel tous les jours pendant 40 ans sur le peuple d'Israël parce que c'était le peuple de Dieu. Et il nous est dit à un moment donné dans la Bible que c'était quelque chose qui était suave, c'était agréable et c'était certainement pour donner des capacités finalement nutritionnelles extraordinaires. Et je vous invite, on va lire un dernier texte, dans le psaume 78, versets 22 à 25, il y a là quelque chose où il est question du pain d'effort. Ouais. Et le pain d'effort, c'était peut-être allusion à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif, à ceux qui sont faibles. Et c'est précisément le pain que l'on donne à celui qui a besoin d'être rassasié. Et celui qui est faible, il a besoin d'être fort. Et pas de n'importe quelle force, on va le voir ensemble. Donc 78, verset 22, il est dit ceci. Alors toujours, avec cet arrière-plan qu'il y en a qui croyaient, qu'il y en a d'autres qui ne croyaient pas. Alors en tous les cas, le verset 22, « Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, » en parlant des Israélites, hein, « parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Hein. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils étaient en détresse, ils avaient peut-être en danger, mais ils n'ont pas cru dans son secours. « Alors il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, sa bénédiction. Il leur donna le blé du ciel. La manne, c'est une petite graine, hein, le blé du ciel. Nous, on sait ce que c'est que le blé, hein. Il y en a des millions de tonnes, hein, qui sont cultivées dans notre pays, hein, et dans le monde entier, parce que c'est la substance avec le riz essentielle de la vie de l'humanité, hein. Le blé du ciel, mais c'est pas le blé de la terre. Voilà. Ils mangèrent tous le pain des grands et leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et leur amena la puissance du midi, etc. Il leur donna le pain des forts, le pain des grands. Moi, je dis que un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille, une personne âgée, quel que soit l'âge de ces individus, à partir du moment où véritablement La foi habite nos cœurs. Un Dieu, je le répète encore, un Dieu qu'on ne voit pas, mais un Dieu présent, un Dieu bienveillant, un Dieu qui bénit. Alors à ce moment-là, je dis que l'on petit puissions-nous être, à ce moment-là, nous devenons grands aux yeux de Dieu. Eh oui, oui. Non pas par nous-mêmes, non pas par notre habileté, notre théologie ou notre intellectualisme, notre beauté ou autre chose, mais nous le devenons parce que finalement, eh bien, de faibles que nous sommes, de petits que nous sommes, Dieu fait de nous des grands. Et vous savez qu'il y a une promesse extraordinaire dans la Bible, c'est que Dieu nous donne la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Dans le ciel, il nous est dit que les hommes qui auront cru en Jésus-Christ, qui l'auront accepté comme leur sauveur personnel, qui se seront repentis de leurs péchés, seront appelés des fils de Dieu. Nous sommes déjà des rois et des princes. Ça vous dirait d'être roi, d'être prince, président de la République? C'est tranquille hein, comme fonction. Hein. Non, mais c'est pour dire que il nous donne le pain des forts, le pain des grands. Voyez, malgré leur incrédulité, Dieu a continué. Et Dieu continuera toujours. Malgré nos infidélités, Dieu continue. Il nous a dit, non pas cru en lui, mais Dieu continue à faire. Et croyez bien que, moi je voudrais vous encourager à persévérer, à croire dans le Seigneur. À lire la parole de Dieu, à vous nourrir de cette manne. La manne de tous les jours, hein. C'est le titre d'un livre ça. Hein. La manne de tous les jours. Avec des paroles qui sont extraordinaires. Alors, si nous terminons tout simplement, je voudrais simplement dire, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Bon, voilà. Mais une chose, Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et puis une petite note de typologie, on peut dire simplement pour finir. Vous savez que tout Israélite dans le désert devait aller chercher lui-même, chaque jour, tout simplement, la quantité suffisante de ce que Dieu avait donné. Tout simplement, vous savez, il y a tout un... Je ne rentre pas dans les détails, mais il devait ramasser ce qui venait d'en haut. Mes amis, moi je voudrais vous dire, vous pouvez lever votre cœur et vos bras pour ramasser ce qui vient d'en haut. Et moi je pense que c'est une bénédiction. Et ce soir, je voudrais vous dire que vous encouragez en tous les cas eh bien, à vous nourrir de cette manne, à prendre cette manne, parce que c'est une bénédiction. Alors, la crainte de manquer? Non, n'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur. Quelquefois, les choses sont très tendues dans la vie. Hein. C'est très serré. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu ne manquera jamais d'honorer ses promesses. Et ses promesses, eh bien, c'est cette manne dont nous nous sommes entretenus ce soir. Alors prenez-la, croyez-la qu'elle existe. Et quel que soit votre besoin, quelle que soit votre attente, vous demandez à Dieu. Vous sortez comme les Israélites devaient sortir. Et ils devaient finalement, eh bien, ouvrir les mains et ramasser cette manne. Bien, prenez-la ce soir, parce que c'est une bénédiction de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et je voudrais vous dire que, aussi, pour terminer, c'est que Jésus, quand il est venu et qu'il se présente dans l'Ancien Testament, il dit, je suis la parole de la vie. Je suis le pain de vie. Eh oui, je suis le pain de vie. Si vous lisez Jean chapitre 6, c'est tout un chapitre très long d'ailleurs, je crois qu'il doit y avoir au moins 70 versets, où il est question que Jésus se présente comme le pain de la vie. C'est pas finalement eh bien cette manne qui était consommée dans le désert. C'était plus que ça. Jésus, c'est véritablement la dimension spirituelle éternelle en qui nous pouvons mettre toute notre confiance et de nous nourrir finalement de cette parole qui vient de lui, parce que c'est elle qui nous assure notre bonheur, notre paix, notre joie et tout ce dont nous avons besoin pour cette vie présente et puis également la promesse de la vie éternelle. On prie quelques instants si vous voulez. On va se courber. On va demander au Seigneur de nous donner de bien comprendre toutes ces paroles et de pouvoir les expérimenter tout simplement et d'ouvrir notre cœur à la foi. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier pour cette parole que tu as déposée sur nos cœurs. Nous croyons que la parole de Dieu, la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament en particulier, ce soit la parole de Jésus, eh bien, nous pouvons dire que, Seigneur, c'est vraiment le pain de la vie et c'est le pain des forts. Et, Seigneur, pour être fort, pour être grand, eh bien, il nous faut nous-mêmes nous humilier. Il nous faut, Seigneur, être petits, nous considérer comme souvent insignifiants, comme sans possibilité. Mais nous savons, Seigneur, que lorsque nous avons ce regard sur nous-mêmes qui est le contraire de l'orgueil, de la prétention, de ce qui peut être hautain, alors à ce moment-là, lorsque nous nous approchons de toi, en toute simplicité, eh bien, nous nous apercevons que tout ce qui nous fait défaut sur la terre, toutes nos craintes, nos incertitudes, nos angoisses, nos anxiétés, eh bien, de manquer de quelque chose, nous nous tournons vers toi et nous pouvons nous souvenir que tu nous as fait cette promesse merveilleuse, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », en sachant que l'apôtre Paul nous dit également dans un autre passage de l'Évangile que Jésus est la plénitude de toutes choses. Et nous te remercions, qu'en lui habite toute la plénitude de Dieu. Alors, merci mon Sauveur, je te prie pour mes amis, ceux qui sont là ce soir, où nous sommes réunis devant toi, eh bien, tu les bénis les uns et les autres, et tu leur fais du bien, tu ouvres leur cœur. Et nous savons, Seigneur, que tu as certainement, eh bien là, fait en sorte qu'ils puissent trouver la paix, la joie, et ton salut merveilleux. Merci, Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.